Moi, je vous retrouve en février, ce sera le 8 février normalement. Et maintenant, eh bien, Radio Cartable avec quelques secondes d'avance. Belle journée à tous et à bientôt.
Merci Laurent, et effectivement c'est bientôt l'heure de Radio Cartable sur 89.4 FM et sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui on va être dans une émission qui ressemble à celle qui avait été diffusée le 14 décembre, puisque c'est une émission faite à l'occasion des 40 ans de Radio Cartable sur la mémoire de ce fonctionnement de la radio scolaire, de ce fonctionnement en particulier, et également des projets qui ont été menés toutes ces années. Alors le 14 décembre, les années évoquées c'était 1984-1994, et aujourd'hui on va parler de la décennie 1994-2004. Je voulais remercier Yolande Sicarelli qui a œuvré à la fabrication de cette émission avec énergie, détermination et en particulier pour rechercher toutes les archives que vous allez entendre. Et donc je vous souhaite une bonne écoute et on retrouvera les enfants la semaine prochaine.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode spécial 40 ans de Radio Cartable. Deuxième épisode pour parler bien sûr de cette deuxième décennie. Je me présente, je suis Paul, ancien élève de l'école Maurice Thorez A. J'y étais élève entre 1998 et 2002. Et me revoilà 20 ans plus tard, remettant les pieds à l'école pour rendre hommage à Radio Cartable. Dans le studio avec moi, 4 personnes, ayant fait vivre cette émission. Je vous laisse le soin de vous présenter.
Régis Recher, j'ai été directeur de l'école Maurice Thorez A pendant 9 ans. Je suis arrivé en 89 et je suis parti en 98. J'ai découvert l'école avec sa spécialité, c'était Radio Cartable.
Bonjour, moi je suis Daniel Pasquier, j'ai été enseignante ressource pendant un an et j'ai été institutrice qui a beaucoup pratiqué Radio Cartable avec bonheur. Et c'est ce qui donnait, je crois, du bonheur dans ma classe.
Bonjour, je suis Marie-Claude Boyer, j'ai été conseillère pédagogique ici à Ivry-sur-Seine, à l'inspection départementale. Et j'ai connu Radio Cartable de sa naissance jusqu'à maintenant.
Bonjour, je suis Yolande, Yolande Sicarelli. J'ai été enseignante dans l'école Maurice Thorez A un maximum d'années. Ensuite, j'ai pris... je pense pas que je n'ai pas pris la relève après Régis, mais pas loin. Voilà, tout à fait. Et donc, j'étais directrice de l'école aussi, de la même école. Ensuite, j'ai fait un an ou deux de présidence d'Aradel. D'ailleurs, Régis a oublié de spécifier qu'il a été aussi lui. Il a pris derrière, je crois, peut-être Pierre Laborie, je ne sais plus trop. Il a fait aussi un ou deux ans de présidence d'Aradel, ce qui n'est pas rien comme travail, comme mission. Et puis là, donc moi aussi, on est entre retraités, hein, par Paul, là, 30 ans. Voilà, je suis trésorière de l'association Aradel, qui est l'association pivot de Radio Cartable. Mais alors donc, on a le petit Paul là, pour parler de la deuxième décennie, de 94 à 2004. Un petit trentenaire tout neuf, hein, il vient d'avoir ses petits 30 ans là en décembre.
C'est ça, oui.
Voilà. Et bien, pour fêter ta venue, j'ai une bonne bouteille de champagne offerte par des amis qui ont écouté notre première émission là, du jeudi 14 décembre, sur la naissance de notre radio, et qui nous félicitent à leur manière, parce qu'ils ont été, ils connaissaient pas le cartable, mais ils ont été babas devant tout ce qu'on a raconté. Alors, un grand merci à eux. D'ailleurs, avant d'ouvrir le champagne, Daniel va nous lire leur sympathique message.
Alors, le voilà. Allô, Yolande Cartable. Alors, tu vois, Yolande, hein, comment...
J'ai mon cartable au dos.
Merci pour l'info. Josiane et moi avons bien apprécié l'histoire de la radio, le sens donné comme prioritaire, c'est vivre ensemble. La place donnée aux enfants motivés dans le récit, l'initiative en forme de radio vivante. Et le remarquable enthousiasme collectif dégagé par, et ça a duré 40 ans. Voilà, ça vaut bien une prolongation Radio Bistrot autour d'une bonne bouteille de champagne. À ta santé, Yolande, et à celles et toutes celles et tous ceux qui font vivre cette belle réalité. C'est de la part de Josiane et Michel Clément. Ben, on les remercie. Hein.
Qu'est-ce qu'on se dit ?
Oh là. Allez, bonne année.
Bonne année, Radio Cartable.
Bonne année 2024.
Bonanno, comme on dit en breton.
Allez, en tout cas, bonne année 2024 et longue vie, Radio Cartable.
Exactement. Ouais. Sais-tu, Paul, que tu vas passer un beau moment avec des vieux de la vieille, radio. Tiens, d'ailleurs, dans l'émission du 14 décembre, Élise, une ex-élève de Solomon, nous a parlé du jeu du dico de Radio Cartable. Eh bien, chers auditeurs, cherchez l'origine de cette expression, les vieux de la vieille, qui n'est connue que par les anciens. Après, vous nous envoyez ça, parce qu'on n'a pas de direct, donc vous envoyez ça à Radio Cartable. Élise, pour reparler d'elle, appréciait le jeu du dico. Elle nous en a parlé lors de cette réunion, et elle avait découvert lors d'une séquence le mot « uranoscope ». Avez-vous pris, depuis la semaine dernière, le temps de chercher sa signification ? Oui, non ?
Non.
Non, non, non. Bon, ah bah alors, même pas à vos dicos, plutôt à vos téléphones portables, puisque maintenant, on cherche bien plus rapidement là-dessus. On a même les photos, d'ailleurs. Hein. Si on avait été en direct, on vous aurait aussi demandé de nous téléphoner. Alors, on laisse quelques secondes de recherche.
C'est la boîte de jeux de Radio Cartable.
En tout cas, je l'ai. L'uranoscope, ou rascasse blanche, est une espèce de poisson osseux de Méditerranée, voisine de la vive, avec de gros yeux sur le haut de la tête, d'où son surnom de regardeur d'étoiles. Mais sinon, Marie-Claude, pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la raison de notre réunion aujourd'hui ?
Eh bien, oui. Cela fait 40 ans que Radio Cartable existe, ou presque 40 ans, puisque le 8 février, nous allons fêter les 40 bougies de Radio Cartable. Et nous avons décidé de remonter le temps depuis ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. On s'est penché sur sa première décennie, 1984-1994, lors de notre précédente émission, du jeudi 14 décembre. Aujourd'hui, on va parler de sa deuxième décennie, 1994-2004. On a évoqué les premiers pionniers, pionnières de notre radio qui l'ont aidé à naître. Annie Le Troïc, Jean-Pierre Merlot, puis d'autres aussi, aujourd'hui disparus, qui l'ont aidé à grandir, comme Pierre Laborie ou Philippe Colomine. Avec cette deuxième période, on parlera des premiers enseignants ressources, des enseignants hors classe qui ont choisi de faire vivre la radio. Daniel a d'ailleurs été la première à assurer cette mission. On évoquera aussi quelques projets fédérateurs au fil de ces 10 ans.
Merci beaucoup pour ces précisions. Prochaine question, je voulais poser à Monsieur Richard. Vous étiez directeur à l'école de Maurice Thorez A. Et je suis arrivé pour ma part en 98. Vous aviez quitté l'école, il me semble.
Oui, j'étais déjà en retraite. Disons que quand je suis arrivé dans cette école, bien le bureau du directeur était inaccessible et moi je l'ai ouvert en grand. Les enfants qui participaient à ce jeu venait pour parler au téléphone.
C'était le jeu du personnage mystérieux.
Le personnage mystérieux, et donc le téléphone du directeur était accessible à ses enfants.
Tu as été président, est-ce que tu as des souvenirs sur la présidence de Radel ?
Eh bien, sur la présidence de Radel, j'ai essayé de participer au moins sur le côté matériel de la chose et faciliter au mieux les déplacements
des réunions, les courriers.
Et puis aussi se déplacer pour enregistrer l'émission jusqu'à Radio
Libertaire.
Et donc, j'ai même quelquefois été obligé de remplacer sur le tas la personne qui devait amener l'émission jusqu'à Radio Libertaire et qui était indisponible.
Monsieur Richer, une interview de vous datant de 2014 pour les 30 ans de la radio a été retrouvée dans les archives. Je vous propose de vous réécouter.
Bonjour chers auditeurs de Radio Cartable.
Nous sommes les élèves du CE2 de l'école Maurice Thorez A.
Bienvenue dans l'émission 30 ans et tous ses dents.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir non pas un, mais trois invités.
Pour chacun, pouvez-vous définir Radio Cartable en quelques mots ?
Eh bien, Radio Cartable, c'est, disons, une expérience assez remarquable parce qu'elle dure depuis 30 ans. Et au départ, c'était une expérience dont on ne pensait pas du tout qu'elle durerait autant. Donc, de ce côté-là, pour nous, Radio Cartable, c'est quand même un outil assez exceptionnel. Et ce qu'il y a, c'est que nous avons remarqué que bien souvent, parmi les élèves qui faisaient de la radio, eh bien, on voyait des élèves qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas à prendre la parole et tout ça. Et avec les émissions de radio et tout ça, peu à peu, ils prenaient confiance en eux. Et il y avait même, de la part des participants, ils se corrigeaient. Tu n'as pas assez parlé comme il fallait. Il faut articuler davantage. Il faut aller plus doucement. Il faut aller plus vite, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil assez exceptionnel. Et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. On a l'impression toujours que c'est quelque chose en plus de ce qui doit être fait, aller dans les classes. Voilà.
Quelles sont les grandes différences entre la radio que vous avez connue et celle d'aujourd'hui ?
Oui, ce qu'il y a, c'est que au départ et pendant fort longtemps, comme Radel n'avait pas beaucoup d'argent, c'était tout un souci, ne serait-ce que pour acheter un micro, comment dirais-je, un bon micro et tout ça, ça dépassait largement les capacités d'Aradel. Et bien souvent, les écoles aussi aidaient beaucoup en fournissant des rames de papier, en fournissant des crayons et du petit matériel comme ça, mais qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire de la radio malgré tout.
Et t'as peut-être quelques souvenirs, Paul, puisque tu étais un ancien élève du Radio Cartable.
Alors oui, ancien élève de Maurice Thorez, j'avais aussi participé ou écouté à l'émission souvent. Et je me rappelle à peu près voilà, de ces créneaux du jeudi après-midi, de 7h, où on était là à écouter, à remplir des fiches, des questionnaires, des quiz, qu'après on envoyait à l'école, et il y avait derrière des tirages au sort, des...
Et on gagnait les bonbons.
Voilà, des choses pour la classe, pour ceux qui avaient bien réussi. Il y avait aussi, bien sûr, ces, différentes interviews qu'on avait fait aussi d'Ivriens ou même d'artistes. Je me rappelle de mon époque que ma classe ou des personnes de l'école avaient interviewé Jacques Higelin. C'est très intéressant. Puis même, je me rappelle aussi des préparations en classe, des émissions qui se faisaient du coup collectif, avec derrière aussi le choix des élèves qui, eux, allaient au studio l'enregistrer avec, à l'époque, du coup, Jean-Jacques. Et d'ailleurs, je vais demander, est-ce qu'il y a encore maintenant toujours un enseignant comme Jean-Jacques, à l'époque, responsable de Radio Cartable, de radio?
Alors oui. D'ailleurs, tu vois, de l'autre côté, il y a Gaël hein, qui est là, qui a pris la relève, mais qui fait partie de la quatrième décennie. Revenons donc à la deuxième décennie. De 84 à 92, on se débrouillait, aidé par, essentiellement par Pierre Laborie. Il y a aussi Philippe Colomine, on en a parlé la dernière émission. En 92, l'IEN d'Ivry, qui s'appelle Madame Fortier, convaincue de l'utilité de cet outil radiophonique, 10 ans après Madame Letroïc, elle a repris le flambeau. Et elle a favorisé la mise en place d'une mission, pas d'un poste, hein, parce que encore maintenant, ce n'est pas un poste. C'est-à-dire que dans le mouvement des enseignants, il n'y a pas un poste de Radio Cartable. Donc il y avait une mission en permettant à un enseignant qui était déjà en classe de quitter sa classe. Il était volontaire, bien sûr. Hein, il venait assurer la maintenance de la radio et il y avait un remplaçant qui était envoyé pour prendre sa classe. Ça a duré 2 ans à mi-temps. Hein. La première missionnée, si je puis dire, celle qui a étreiné cette mission d'enseignante ressource, comme on les appelle maintenant, depuis longtemps d'ailleurs, a été Danielle, en 93-94.
Cette mission que moi j'ai eue en premier, à mi-temps, c'était très très compliqué, avec si peu de temps de le faire, mais toutes les personnes qui faisaient Radio Cartable étaient des volontaires, c'est-à-dire... Ils savaient que ça dépassait les heures de service, hein, on était beaucoup de temps passé. Mais c'était vraiment un truc très enrichissant. Et cette mission, c'était d'aller dans toutes les écoles chercher ce que les enseignants avaient préparé avec leur classe, ou de prendre en tout petit groupe 1, 2 ou plus d'élèves, et de les faire parler dans le micro, et puis de revenir aussi au studio de Radio Cartable de l'école Maurice Thorez, et de préparer à l'époque les bandes avec des petits scotch, ou quand ça a été après sur ordinateur, avec c'était une autre façon de faire, c'était plus technique et puis moins concret aussi. Mais, et c'était d'envoyer l'émission en passant par la radio de Radio Libertaire. Cette chose-là, c'était un travail d'organisation incroyable. Et ce qui était exceptionnel, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de classes d'Ivry y participaient. Et que ça a même, à un moment donné, été hors Ivry. Et qu'il y avait des classes de Choisy-le-Roi qui étaient en contact. Vitrine. Et on essayait même de leur dire « on veut tous nos credos ». Et Radio Cartable avait à ce moment-là rayonné si fort qu'on avait été même leader avec d'autres radios scolaires comme à Vendeuvre ou
à Aubenas,
même dans, je ne sais pas si c'est pas à Madagascar, non, à La Réunion, mm-hmm. Il y avait une radio à La Réunion. Et il y a eu comme ça un échange et un rayonnement. Et c'était, je crois, quelque chose d'extraordinaire pour tous les enfants, parce que tous les enfants étaient vraiment concernés, que ça faisait une expérience collective extraordinaire.
Et ainsi, du coup, Daniel, après cette mission, vous avez repris une classe, c'est ça?
Et pourquoi? Parce que j'étais maman de deux petites filles, pas très grandes, et que ça a pris beaucoup de place, y compris dans ma vie privée. Et qu'un jour, j'ai retrouvé mes enfants toutes seules, très tard le soir. L'électricité avait sauté, elles étaient toutes seules dans le noir, avec une bougie, mais j'ai eu un peu peur. Après, bon, c'était un peu compliqué, c'était un problème personnel de gestion. Et c'est vrai qu'il fallait vraiment passer à ce que ce soit pris en compte comme travail. C'est vrai que la bonne volonté était essentielle, mais que ça ne pouvait pas reposer que là-dessus, parce qu'il y a des charges personnelles, des fois, qui sont lourdes. Voilà, c'est une question personnelle, mais pas simplement personnelle. Comme on peut se dire qu'aujourd'hui, avoir un mi-temps, eh ben, ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner une radio, et qu'il faudrait bien un temps complet, et qu'on puisse retourner dans les classes. Voilà, ça, c'est une quelque chose de concret. Il faut aussi des moyens matériels.
Alors, Daniel, quelques mots justement sur le passage du mi-temps à un plein temps.
Il y a eu vraiment des personnes militantes, j'ai parlé de Marie-Claude, et puis des personnes aussi qui ont donné leur accord, l'inspectrice départementale et l'inspecteur après, et puis à l'inspection académique, on est passé à une personne mise à disposition à plein temps, missionnée à plein temps, pendant plusieurs années, là, les dates, c'est 93-94 mi-temps, 94-95 mi-temps, et à partir de 95 jusqu'en...
Oui, un an près.
An près, jusqu'à...
Et après Jean-Claude ?
Après Jean-Claude, il y a eu, je crois, Nathalie Medville, et puis après il y a eu Jean-Jacques Charbonnier.
On a retrouvé dans les archives une autre interview datant de 2014 pour les 30 ans de la radio. Je vous propose d'écouter Monsieur Jean-Claude Medville.
Merci Chimène, mais dis donc Anthony, c'est déjà commencé le sommaire. Qu'est-ce que tu fabriques ?
Ben, je me brosse les dents.
Mais pourquoi Anthony ?
Eh bien parce qu'on va écouter la séquence 30 ans et toutes ses dents. À 14h17, on y retrouvera Jean-Claude Medville, le papa de notre maîtresse adorée qui s'est occupé comme Frédéric de Radio Cartable dans les années 90. N'oubliez surtout pas votre grille d'écoute.
Super Anthony. Vous avez été un des premiers maîtres à vous occuper de radio. Comment ça se déroulait, une heure d'émission à l'époque ?
Eh bien, quand on a commencé, en réalité, on ne faisait pas une heure d'émission. Au début, on faisait en réalité une émission tous les jours. Tous les jours, il y avait une émission. Et elle ne durait que un quart d'heure, 15 minutes. Alors, tous les matins, on venait au studio avec des enfants. On envoyait la musique du générique. Je ne sais pas si vous avez la même. Est-ce que c'est la même musique de générique que vous avez ?
Oui.
Hein,
oui.
C'est la même qu'au début. Donc oui. On envoyait la musique de générique et on faisait notre petite émission qui n'était pas très longue, puisque 15 minutes, c'est même pas une durée de récréation. Et puis après, ça s'arrêtait. Voilà. Donc après, on a fait des émissions d'une demi-heure tous les deux jours. Il y avait un jour pas d'émission, un autre jour une demi-heure. Et après, on a fait des émissions d'une heure. Voilà. Et donc, ça se déroulait de cette manière-là. Comme maintenant, quoi. Mais au début, c'était pas comme maintenant.
Si vous deviez définir en quelques mots Radio Cartable, quel serait-il ?
Si je dois définir en quelques mots, ça va être difficile parce que quand on a créé la station de la radio Cartable, on n'a jamais travaillé en quelques mots. C'était des discussions qui duraient des jours et des jours. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez le générique de Radio Cartable. C'est le même. Hein.
Oui.
Quand on l'a créé, parce qu'on l'a inventé aussi, on n'a pas découvert, on l'a inventé. On est resté pendant 3 mois à écouter des musiques. Et puis on se mettait pas d'accord. Personne ne voulait la musique que l'autre proposait. Il se trouve que un musicien qui était fils d'un des animateurs que nous étions, il y avait Pierre Laborie qui était un animateur parmi nous. Son fils était musicien. Donc il nous a proposé une musique. Alors, après avoir écouté toutes les autres musiques sur plein de disques, on a écouté la musique qu'il nous proposait, et elle nous a plu. Et la preuve, c'est celle que vous utilisez encore aujourd'hui. Ce musicien, il s'appelle toujours, hein, Pascal Laborie. C'est devenu un musicien professionnel, international, qui est en ce moment dans l'orchestre des Pays de Loire. C'est un orchestre national de la français. Et il est sa profession, donc c'est d'être musicien. Il est surtout percussionniste. Voilà. Et donc c'est un exemple pour dire que c'est difficile de prendre une décision. On prend pas une décision comme ça brutalement. Tu vois le cartable qui est là. Eh bien ce cartable là, pour en faire l'image, on a travaillé dessus pendant des mois et des mois pour se mettre d'accord sur cette image de cartable. Et une fois qu'il a été mis, je sais pas si vous l'utilisez encore cette image là, mais nous on avait dit plus interdiction d'utiliser une autre image que celle-là. Donc chaque décision est très difficile à prendre. On avait un slogan. À la fin, quand on a bien établi l'organisation de Radio Cartable, on avait un slogan. On disait Radio Cartable, c'est la radio pour les enfants, faite par les enfants. J'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil maintenant. Ce qui est bien. Je vous en félicite d'en avoir gardé l'esprit.
Merci Monsieur de Medville d'avoir répondu à nos questions.
De 98 à 2002, c'est en effet Jean-Jacques Charbonnier qui était à cette époque remplaçant et qui a accepté de reprendre le flambeau. Il était aidé d'ailleurs dans cette tâche-là, bien lourde, par Anne Chéchia. Anne Chéchia, c'est une jeune assistante emploi jeune qui est restée, je crois, 3 ans à Radio-Cartable. En 2002, c'est la retraite.
Ouais,
et il a pris la responsabilité de la présidence d'Aradel. Aradel, les amis de la radio de l'école. On reparlera de lui surtout dans la troisième et quatrième décennie, car il a servi Radio Cartable pendant plus de 20 ans.
Reportage dans mon cartable.
Bonjour Jean-Jacques, nous faisons une enquête sur Radio Cartable qui aura 20 ans en février 2004.
Alors bonjour à tout le monde d'abord.
Est-ce que vous avez aimé faire de la radio, Radio Cartable, et pourquoi ?
Alors d'abord, moi c'est, je voudrais préciser que c'est pas moi qui faisais de la radio, mais les enfants, hein, bien sûr. Donc j'ai aimé que les enfants fassent de la radio, oui beaucoup. C'est une des rares activités qu'on peut faire à l'école et qui soit une activité pour de vrai. Et quand on fait les choses pour de vrai, on les fait mieux et on apprend mieux.
Qui étiez-vous avant à Radio Cartable ?
Alors avant Radio Cartable, d'abord j'étais un maître, mais j'étais un maître qui n'avait pas de classe. Ou alors on va dire j'avais toutes les classes d'Ivry qui faisaient Radio Cartable. On m'appelait la personne ressource. C'est-à-dire que j'étais là, mon travail c'était d'aider les classes à faire les émissions. Hein, mon travail, c'était d'aider. Aider à enregistrer, aider à faire que l'émission soit d'enlever les bruits, tout ça, et aider à ce qu'on l'entende, donc aider à ce qu'on diffuse l'émission à la radio. C'est un travail d'aide.
Bon, avec Jean-Jacques, nous avons presque terminé la décennie. Car Jean-Jacques, lui, quitte sa mission en 2002. Et jusqu'en 2004, par contre, qui reprend derrière lui ?
Alors, cette deuxième décennie s'est terminée avec Sébastien Froment, comme enseignant ressource. Il a été aidé dans cette tâche par Samuel Volson, qui était aide-éducateur pendant 1 an. C'est Sébastien, d'ailleurs, qui a piloté les différentes classes, nombreuses, pour la fête des 20 ans de Radio Cartable. Et c'est lui aussi, et c'est pas rien, qui a composé les principaux jingles liés aux différentes rubriques d'émissions. Il est parti en Angleterre en 2004. Je lui lance un appel pour que quelqu'un le contacte ou qu'il nous réponde afin d'être parmi nous pour les 40 ans de Radio Cartable.
Monsieur Richard, vous avez été directeur de l'école Maurice Thorez A, aussi appelée parfois l'école Petite Ivry. Pour l'histoire, l'avenue Maurice Thorez avait aussi un autre nom, celui de la rue de Paris, et ce depuis 1812. Or, après le décès de l'ancien député ivrien Maurice Thorez, la ville décida de changer le nom de la rue et de l'école pour lui rendre hommage. Pour nous souvenir de cet ancien nom, nous avons aussi une chanson d'Alain Leprest à vous faire écouter. Elle s'intitule « Le Petit Ivry ».
On habitait le Petit Ivry, le mercredi après-midi, mon petit frère portait mon cartable. On allait faire au square des concours de balançoire, sauter dans le bac à sable pour voir. L'automne au fil des marronniers dispersait des poils à gratter dans le vent qui soufflait au square, où des milliers de chipons accrochaient sur l'horizon plein de petits nénuphars en balançoire. La statue de Maurice Thorez portait un chewing-gum à la fraise à la boutonnière de son costard. Il suivait d'un œil noir les allers-retours dans le soir, lui qui ne pouvait plus faire de balançoire. On a bouffé des cochonneries, fait des hold-up en boulangerie, Métro Pierre et Marie Carrie, en cherchant des histoires dans les papiers de carambard, assis sur la balançoire du square.
Vous êtes bien sur 89.4 FM et c'est l'heure de Radio Cartable sur Radio Libertaire.
Marie-Claude, en début d'émission, vous aviez parlé des projets fédérateurs.
Donc c'est des projets qui rassemblent plusieurs élèves de plusieurs classes, de plusieurs écoles en général. Est-ce que vous avez des exemples à nous raconter?
Oui, effectivement. En fait, il y a eu un démarrage avec la première décennie. Il y avait des projets, mais moins nombreux et beaucoup plus lourds. On frisait un peu France Culture, c'était compliqué. On avait mis un haut niveau, mais c'était les enseignants, hein, et c'était dur pour les enfants. On a été plus raisonnable. Et on a vu l'explosion de projets, et ça c'était important, grâce à la radio. La radio c'était l'outil fédérateur, et les projets naissaient, alors soit proposés par l'inspection, soit proposés par des classes. Ce qu'on a vu au tout départ, c'était le partenariat avec les structures culturelles qui se sont développées et qui sont devenues beaucoup plus importants parce qu'on pouvait donner une finalisation à ces projets grâce à la radio. Donc il y a eu le développement du partenariat avec le théâtre. C'était soit tantôt du théâtre, soit tantôt de la musique. Et il y avait chaque année une ou deux classes de retenue, et c'était presque la course à l'échalote pour avoir la place. Et ensuite, toute l'année, les enfants travaillaient avec ces structures culturelles, assistaient à tous les spectacles, et travaillaient avec les gens qui étaient en résidence, que ce soit des musiciens, chanteurs, ou des gens de théâtre. Et il y a eu, par exemple, avec Xavier Lacouture, un chanteur, tout un travail avec des classes où on a demandé, les enfants étaient allés voir Xavier Lacouture, on leur a demandé d'écrire des chansons. La classe écrivait au moins les paroles d'une chanson. Xavier Lacouture avait donné un cadre en disant: Vous essayez de voir si vous voulez écrire une berceuse, une chanson en plus entraînante. Enfin, vous donnez un cadre comme ça. Et il ensuite, une fois que les chansons étaient plus ou moins écrites, il allait dans la classe et avec les enfants, il travaillait sur des musiques. Alors c'est lui qui proposait, parce que c'était lui le musicien. Et les enfants disaient: ah oui, ça va bien, ah non. Puis quelquefois, changeaient les paroles pour que ça s'adapte à la musique.
D'ailleurs, le travail que décrit très bien Marie-Claude a été fait aussi avec Alain Leprest.
Je pense à Xavier Lacouture, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et avec le théâtre, c'était... ils assistaient à tous les spectacles donnés par cette compagnie. Ils essayaient ensuite de raconter le sujet de la pièce, ou la pièce, enfin, c'était plus ou moins différent suivant les classes. Et il rencontrait et interviewait des acteurs. Pas tous les acteurs, mais certains. Et ensuite, donc il travaillait sur cette rencontre qui était enregistrée. Et ensuite, il donnait leur avis. Et là, ça a été très, très difficile à travailler dans les classes. Parce qu'au début, ah oui, c'était bien. On ne va pas trop loin quand on a dit ça. Et ils ne savaient pas de quoi parler. Donc, il y a eu tout un travail autour de qu'est-ce que je peux dire parce que j'aime bien, ou qu'est-ce que je peux dire parce que je n'aime pas. Et là, ça a été vraiment un travail difficile, mais enthousiasmant.
De critique.
Critique, voilà. On regardait avec un esprit critique. On a lancé dans la circonscription des défis scientifiques, une question scientifique était proposée aux classes et les classes devaient trouver la réponse à ce défi. Je crois que Daniel va vous parler d'un défi qu'elle a relevé avec sa classe.
On a reçu dans les classes, dans un petit récipient, de drôles de petites choses assez sales, des sortes de petites boulettes, il y avait du poil, il y avait des dents, pas très gros, gros comme une petite noix. Et Madame l'inspectrice nous demandait, mais qu'est-ce que c'est ?
Madame Le Goas.
Madame Le Goas, qui a été aussi une inspectrice qui a impulsé, aussi avec Marie-Claude, tous ces projets qui étaient vraiment incroyables. Dans la classe, les élèves se sont posés la question, qu'est-ce que ça peut être ? Et je me souviens d'une qui a dit, c'est peut-être des crottes ? Et l'autre qui dit, ah non, madame l'inspectrice ne nous aurait pas donné des crottes. Et nous avons beaucoup cherché.
Le journal du défi scientifique.
Bonjour, nous sommes les CE1 de l'école Jacques Solomo. C'est nous qui avons gagné le défi scientifique pour le premier trimestre. Le premier jour, notre maîtresse nous a lu le défi de Madame l'inspectrice.
Au pied de cette poutre, voire photographie, lorsque la maison n'est pas occupée, on trouve ces objets. Je te mets au défi de découvrir de quoi il s'agit.
On a regardé les pelotes et on a regardé la photo de la poutre. On a dessiné la pelote.
On a pensé à ce que cela pouvait être.
De la moquette.
Une boule de poussière. Des patins pour le parquet.
Des cheveux sales qui sentent mauvais. De poils de chat ou de chien. Des graines de fleurs.
Une petite noix de coco. Un animal mort.
Une souris sans pattes et sans tête.
L'équipe des dauphins a dit, on va relire le défi.
Ils ont recherché les mots difficiles dans le dictionnaire.
Ménagerie, c'est une sorte de petit zoo.
Alors, ça ne parlait pas du ménage ni des plantes. On a gardé les hypothèses qui parlaient des animaux.
Le troisième jour, on a regardé à la loupe. On a dessiné ce qu'on voyait.
Anthony a trouvé des petites choses. On s'est demandé.
Est-ce une dent ?
Est-ce un os ?
Est-ce un sabot ? Non, pas un sabot, c'est trop gros un sabot.
On a recherché dans les pages qui parlaient des animaux.
Ophélie a trouvé la pelote de réjection de la chouette Hulotte. C'est ce qu'il fallait trouver. Les pelotes de réjection étaient marron clair. Nos objets étaient gris. Est-ce que c'était pareil ? Il fallait trouver quelqu'un qui nous aide.
Nous sommes allés au jardin des plantes rencontrer Michel Lisek, le soigneur des rapaces.
Bonjour, on est à la ménagerie.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je m'appelle Michel Lisek, ça fait 25 ans que je m'occupe des rapaces à la ménagerie du jardin des plantes.
On a reçu une énigme par madame l'inspectrice, on doit trouver de quoi il s'agit.
Alors, est-ce que, Mariam, est-ce que tu peux apporter les objets à Michel ?
Oui, je vous explique ce que c'est. Alors ça, c'est tout ce que vous avez là, ça fait une petite boule, ce qu'on appelle la pelote de réjection. C'est quand les chouettes ont mangé une souris ou un mulot ou un petit rat, ils l'avalent complètement. Et après, dans le ventre, il y a un tri et ils rejettent les poils et les petits os qui sont trop pointus. Et ça fait une boulette, et ce qu'on appelle la pelote de réjection. C'est ce qu'ils ne mangent pas, ça, et qu'ils rejettent par la bouche. Oui, c'est une chouette et apparemment c'est une grange, c'est dans une grange que vous avez trouvé.
C'est dans une maison abandonnée, hein.
Bah écoutez, je pense même que c'est une chouette effraie, puisque les chouettes effraies vont plus facilement dans les maisons abandonnées, dans les granges, que la chouette hulotte, parce qu'en France on a, enfin par ici, la chouette hulotte et la chouette effraie. Et c'est plutôt une chouette effraie qui va plutôt dans les granges abandonnées et qui mange comme ça. La chouette hulotte va plutôt dans les arbres creux et les forêts. Et c'est plutôt une pelote de chouette effraie.
Vous vous rendez compte tout le travail qu'il y avait derrière ? C'était un truc incroyable, extraordinaire.
Oui, alors il y avait dans un autre domaine, on a participé au Parlement des enfants. Donc plusieurs classes d'Ivry s'inscrivaient. Et il fallait rédiger une loi qui serait présentée au Parlement des enfants. Donc qu'est-ce que c'est que le Parlement, à quoi ça sert, etc. Il y a eu, les classes ont fait des recherches et ils ont rencontré le député d'Ivry, au moins plusieurs, je ne sais pas toutes, mais au moins plusieurs. Et puis ils ont participé à la journée où les classes retenues, parce qu'il y avait quand même un choix sur la France, retenues allaient au Parlement à Paris. Et ça, ça avait pris une dimension dans la tête des enfants. Bah oui, c'est important ce qu'on est en train d'apprendre. C'est quelque chose dont on aura besoin, il faut savoir. Et c'était vraiment très intéressant, ardu, parce qu'apprendre à rédiger une loi, croyez-moi, c'est pas simple. Ça a eu lieu plusieurs années de suite, et il y a eu sur Ivry très souvent une classe de retenue. J'oublie certainement des projets, mais ça a été l'explosion de projets, et c'était l'outil radio qui était fédérateur autour de ça. Et surtout, à la radio, on peut pas faire n'importe quoi, et ça, ils en avaient tous conscience. Ils voulaient absolument que ça soit bien. De toute façon, quand c'était pas bien, on disait non. On disait non, ça peut pas passer à la radio, faut ou vous recommencez ou on arrête, mais il faut que ça soit bien. Les auditeurs ne peuvent pas écouter n'importe quoi. Voilà, je crois que je vous ai donné un petit aperçu, mais c'était un tout petit aperçu parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses.
Nous avons aussi un enregistrement d'un retour de trois anciens élèves de Solomon qui se souviennent maintenant, une ou deux décennies plus tard, de leur projet de l'époque.
Bonjour. Alors, nous sommes toutes les quatre. Vous êtes toutes les trois d'anciennes élèves. Moi, je suis Danielle Pasquier. Et je vais vous proposer de vous présenter et puis de dire quand est-ce que vous étiez dans ma classe ou dans mon atelier. Et puis après, de prendre la parole chacune votre tour. Alors, tu veux commencer ?
Oui. Alors, bonjour. Moi, c'est Mounia Akari. Donc, j'étais dans ta classe en CE2 à Jacques Solomon en 1996. Donc, j'avais 8 ans à cette époque-là. Et je participais donc aux ateliers de Radio Cartable.
Merci.
Alors, moi, c'est Mélita Silla. J'étais aussi à Solomon. Et comme Mounia, j'ai fait Radio Cartable en 1996 et j'avais 8 ans.
Merci.
Alors moi, c'est Nassera Akari, la sœur de Mounia, du coup. J'ai 3 ans de moins. J'ai été dans ta classe en CE2 et CM1. Et j'ai participé aux ateliers de Radio Cartable et Radio Cartable en général sur ces 2 années. Donc en 99 et en 2000.
Et alors là, c'était plutôt dans la classe et pas spécifiquement dans l'atelier.
Oui, moi, ce dont je vais parler sera plus sur la classe. Ouais.
D'accord, je vous remercie. Est-ce que tu veux commencer, Mounia, puis me dire un de tes souvenirs ?
Oui, alors un des souvenirs que j'ai, c'était quand on était au studio, donc à Jacques Solomon, après l'école. Et donc, on était plusieurs enfants. On préparait bien en avance tout ce qu'on devait faire, bien minutieusement. Et je devais présenter un petit jeu, donc un petit jeu de devinettes, où je devais faire deviner des animaux aux autres élèves qui étaient autour de la table. Je distribuais la parole aux autres élèves pour qu'ils trouvent la devinette. Donc je me souviens que c'était assez stressant parce que j'avais l'impression d'avoir un rôle très 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 important. Et je peux dire qu'avec cette expérience et l'expérience de Radio Cartable en général, ça m'a quand même permis d'avoir plus confiance en moi et d'être plus sûre de moi à différents niveaux.
Ben, en tout cas, c'était effectivement très important. Alors, ce n'était pas simplement une impression.
Oui, tout à fait. C'était très important. Et je remercie Radio Cartable.
Super, super. Mais Anita, tu veux dire, toi, tes souvenirs ?
Alors, comme Mounia l'a dit, c'était Une expérience très intéressante. D'ailleurs, dans mes souvenirs, elle a duré plusieurs années. Elle n'a pas duré que CE2. Moi, je pense qu'elle a duré au moins jusqu'en CM1, voire CM2, je ne suis plus certaine.
Sans mais, doute, oui.
Elle a duré plusieurs années. Et donc, c'était quelque chose... c'est quelque chose qu'on travaillait très minutieusement parce qu'on préparait à l'avance tout ce qu'on devait dire. Donc, c'était assez stressant, comme elle l'a dit. Dans mes souvenirs, on avait fait un exercice... moi, j'avais fait un exercice à base de français. Et on devait faire des devinettes en... On devait faire des devinettes avec intonation. Et pour moi, c'est quelque chose qui était assez compliqué parce qu'on devait remettre les phrases à leur place. Et moi, j'avais du mal à lire les phrases et ne pas mettre d'intonation. C'est-à-dire que j'avais du mal à ce que ma voix reste monotone. Donc, c'était assez compliqué pour moi.
Alors, si j'ai bien compris, le jeu était en fait... la devinette était de remettre des phrases dans l'ordre. Pour ça, il fallait faire l'exercice contraire de celui qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire de donner une intonation à la voix, et les élèves autour de toi ou à l'autre bout de l'antenne, puisque c'était écouté dans d'autres écoles, et ils devaient faire à ce moment-là résoudre l'énigme du texte à mettre en ordre, tu ne devais pas donner d'indice, même pas l'indice du point, qui correspond à une phrase qui descend, et donc contrôler complètement l'intonation de la voix pour que le jeu soit plus difficile.
Exactement, c'était ça. Sauf que moi, j'avais surtout tendance... Alors les virgules, ça va, j'arrivais à ne pas mettre d'intonation là-dessus. Par contre, le point, c'était impossible. Je mettais l'intonation là-dessus. Donc c'était très compliqué pour moi. J'avais beaucoup de mal. Finalement, ça s'est passé. Hein. On a quand même réussi après une énième prise. Voilà. Et Radio Cartable, moi, m'a permis de prendre confiance en moi parce que quand je suis arrivée en CE2, moi, j'avais un manque de confiance en moi qui était très compliqué. Et à force de travailler sur Radio Cartable, de prendre la parole en public, de prendre la parole devant beaucoup de personnes, puisqu'au final, il y a beaucoup de monde qui écoutait cette chaîne, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, dans mon métier, bon, après, j'ai continué mes études, bien sûr, mais aujourd'hui, dans mon métier, ça m'a permis de pouvoir prendre la parole avec aisance devant les directeurs, par exemple, quand j'ai une présentation à faire, quand j'ai une présentation à faire ou quand je dois diriger une réunion devant plusieurs personnes. Et c'est de là que ça a commencé, déjà. Ne serait-ce que présenter un exposé quand je suis arrivée au collège, ça m'a aussi permis de pouvoir le faire sans appréhension, sans gros stress. Donc tout ça, ça m'a permis de faire ça. Et surtout, ça m'a aussi permis de pouvoir répondre à une question dont on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui. C'est de pouvoir dire à une personne, quand on nous pose une question, « Je n'ai pas la réponse, je reviendrai vers toi plus tard et je te répondrai.
» C'est fort quand même, bravo alors là.
Je remercie Radio Cartable parce que je pense que c'est la première... C'est le premier exercice qui m'a permis de commencer à avoir confiance en moi et de pouvoir commencer à pouvoir traiter tout ça et à pouvoir résoudre mon problème de confiance en moi.
C'est-à-dire de faire aussi de parler pour de vrai, et c'est ça qui était l'enjeu.
Exactement, parce que j'étais très timide et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer sur tous les points. Donc
Radio Cartable
m'a aidé sur ces
points-là. Donc merci. Merci à toi, Bouta. Vas-y.
Alors moi, je vais parler d'un sujet un peu moins stressant que, que les deux précédents. Nous, c'était un projet qui était en classe. Projet qui a rassemblé du coup toute la classe de CE2, CM1. Moi, j'étais en CM1. On a eu pour projet d'écrire une chanson. C'est nous qui l'avons créée de A à Z. Et c'était en...
C'était un partenariat.
C'était en partenariat, voilà, avec le théâtre de la ville d'Ivry. Il y avait un musicien, un artiste qui venait à ce moment-là. Et on a travaillé avec lui, en collaboration avec lui. Du coup, on a créé les paroles de la chanson. Je ne sais plus si le sujet, c'est nous qui l'avions choisi.
Tout à fait.
Il me semble. Hein.
Tout à fait.
Oui, parce qu'on a... on a choisi le sujet. C'est... Et ensuite, on a eu... pour mission de chanter cette chanson et de l'enregistrer et de créer la pochette de la cassette. C'est aussi vrai. Avec un concours entre guillemets de dessin dans la classe, et on a décidé tous ensemble de quel dessin serait affiché sur la pochette, et je crois même qu'il n'y en avait pas eu qu'un seul, il y en a eu trois qui ont été mis sur la dernière pochette, les trois favoris. Donc c'était, je pense, une expérience. Enfin, ça a été une expérience très longue, ce qui a duré un moment sur l'année, et du coup, ça nous a permis, je pense, d'avoir un travail de groupe avec des personnes extérieures, avec la maîtresse, et sur un temps assez long. Et pour des enfants de CE2 et CM1, c'est pas évident d'avoir un travail aussi long et de tenir sur la longueur.
Est-ce que le fait aussi d'être entendu par les autres écoles, ça jouait? Parce que ce projet, c'est un projet de l'inspection, département de l'inspection d'Ivry-sur-Seine, qui réunissait plusieurs écoles qui travaillaient sur ce projet artistique, enfin, en lien avec. Est-ce que le fait d'être plusieurs écoles, tu as des souvenirs là-dessus? Parce que moi, je me souviens bien que c'était une très belle chanson, très marrante.
Oui, on s'est bien amusé. Du coup, c'était vraiment, parce que du coup, on prenait plaisir à le faire. C'était pas un fardeau pour nous. C'était pas certains devoirs qu'on n'avait pas trop envie de faire. Ça, on voulait vraiment le faire. On attendait toujours le moment Radio Cardop pour continuer sur notre projet. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs sur les autres écoles, mais je sais qu'en fait, on était comme dans un concours et qu'on allait être présenté et qu'on allait avoir notre chanson entière qui allait passer à la radio. Et du coup, on a pu comparer aussi avec les autres écoles. Donc, c'était, je pense, d'autant plus motivant d'avoir les autres écoles avec nous.
Il y avait une chanson de l'école Maurice Thorez sur les petits papiers qui avait été faite par une classe sur les papiers, en fait, d'identité. C'était un jeu entre la chanson de Barbara, je crois, sur les petits papiers et les papiers. Et la nôtre, c'était une chanson sur un peu délirante. Sur
une voiture coccinelle.
Sur une voiture coccinelle.
Mais alors après, les paroles, je ne m'en souviens pas.
On essaiera de retrouver.
Voilà, on essaiera.
Eh bien, merci à toutes les trois.
Merci à toi. Déjà, merci de nous avoir fait participer à Radio Cartable. Parce que sinon, on n'aurait pas connu.
Ouais. Et c'était un projet de l'école et d'Ivry qui était très, très attendu par beaucoup d'élèves dans la ville. Et ça nous sortait un peu du milieu scolaire classique, en fait.
Ah, oui, ouais. C'est...
Et vous, Yolande, comme autre projet fédérateur, est-ce que vous en avez un en tête?
Alors, celui vraiment qui est au fond de mon cœur, c'est l'arbre à racines. En 99-2000, l'arbre à racines a été mené avec des élèves de CE2 de cette école et de CLIN, hein, qui sont les enfants non francophones, à partir de plusieurs rencontres avec plusieurs objectifs. D'abord, donner la parole aux élèves d'origines diverses, pour de vrai, mais surtout donner la parole à leurs parents afin qu'ils s'expriment sur leur vie d'avant, dans leur pays d'origine ou région. Car on avait aussi interviewé un papy originaire des Alpes. Et c'était le papy de, je vous demande en mille,
De Paul.
Oui.
Les vacances, c'est à la fin de la semaine.
C'est pas trop tôt.
Moi, je pars à la montagne. Je vais dans les Alpes chez mon grand-père.
Ah, tu sais que l'année dernière, les CE2 de Petit Ivry A ont interviewé un papy des Alpes.
Évidemment, c'était mon grand-père.
Bon, je les écoute alors.
Ma mère est là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis né ici.
L'arbre à racines.
Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis né ici.
Vous êtes le grand-père de Robin, un élève de notre classe. Robin avait répondu à notre enquête sur les origines des élèves de notre classe. Il nous avait apporté des photos de sa région d'origine. C'est la région Rhône-Alpes. On peut voir ses photos et lire son histoire dans notre calendrier 2000. Nous vous avons invité aujourd'hui pour en savoir plus sur votre région.
Robin nous a dit que c'était ses arrière-grands-parents qui avaient quitté cette région. Qui êtes-vous par rapport à ces personnages?
Eh bien, c'est mon père qui a quitté Vars quand il avait 16 ans.
parce qu'il n'y avait pas assez de terre pour élever toute la famille. Ils étaient 7 enfants, plus ils avaient des enfants de l'assistance publique. Ils prenaient des enfants de l'assistance publique, ça faisait trop de monde. Alors dès qu'ils avaient 16-17 ans, ils partaient, ils montaient sur Paris. À cette époque-là, ils montaient sur Paris.
Et vous, où êtes-vous né? En quelle année êtes-vous retourné à Vars?
Eh ben, moi, je suis né à Montrouge en 1927. Et à Vars, ben, j'y étais au ski, j'y vais en vacances. Là, j'étais à Vars, j'avais 3 ans la première fois que j'étais à Vars. Et j'y étais après régulièrement, tous les 3-4 ans, sauf pendant la guerre. Alors, quel âge ça me fait?
72 ans.
Cette région est une région de montagne. À quoi ressemblent les paysages autour de Vars? Quel est le plus haut sommet? Quel est le climat?
Bah, c'est une région de montagne, quoi. Vars est à entre 1660 et 1800 mètres d'altitude. Et c'est que des montagnes tout autour, quoi. Et les plus hauts sommets doivent être autour de 3007, 3008, par là. Bah, le climat, c'est un beau climat, il y a beaucoup de soleil. Je crois qu'il parle de 300 jours de soleil par an dans la publicité. Et il y a de la neige l'hiver, quoi. Il y a beaucoup de neige l'hiver. Et dans le temps, il restait 6-7 mois sans sortir dehors, quoi. Les bêtes. Ils rentraient les bêtes au mois d'octobre et ressortaient que fin mai, début juin. Alors il fallait ramasser beaucoup de fourrage pour pouvoir les nourrir si longtemps. Et à ce sujet-là, je vous ai amené une image là où on voit comment ils transportaient le fourrage. Ils transportaient ça à dos de mulet.
Comment ça se passait l'école quand vous étiez petit?
Oh ben, à peu près comme vous, à part qu'il y avait 2 écoles différentes. Les garçons avaient leur école et les filles avaient leur école. Ce qui fait qu'on n'était pas ensemble, quoi. Oh, ça dépend des maîtres. Il y en a qui étaient sévères, il y en a qui n'étaient pas trop sévères. Oh, bah, c'était à peu près les mêmes. On jouait au ballon, mais on avait interdiction d'amener des ballons. Alors, on faisait ça avec des bouts de chiffon, des trucs comme ça. On jouait beaucoup aux billes aussi. Et puis, ce que je me rappelle, quand il faisait qu'il gelait, parce qu'on avait des hivers plus froids que vous, il y avait de la glace dans l'école, on faisait du patinage. Avec les chaussures, puis on ramassait des bonnes bûches.
Je me souviens, oui, c'était la classe de Clean, et ça devait faire partie de ton projet, Yolande, l'arbre à racines. Et la maîtresse avait demandé donc à des enfants qui venaient de plein de pays. Ils étaient, je crois, 15 dans la classe et il devait y avoir 12 nationalités différentes. Et elle leur avait demandé qu'est-ce qu'on fait de la dent qu'on perd quand on est petit? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et ça avait été une émission vedette parce qu'en fait, il y a plein de solutions suivant les pays. Et ça avait intéressé vraiment les enfants. Elle avait eu beaucoup de succès. Donc soit on la jette dans le feu, soit on la met sous l'oreiller comme nous, soit on la cache, je sais plus exactement les réponses.
Et surtout, on la vole à la petite souris.
Oui.
C'était de formement, déjà faire entrer dans l'école des parents qui n'osent pas franchir la porte. Réussir à ce qu'ils nous confient parfois leurs difficultés de départ. Qui les avait amenés en France. Et surtout avec ce projet, revaloriser aux yeux de leurs propres enfants et aussi de tous leur passé et leur origine. Ça a été finalisé par une belle exposition artistique faite sur l'école avec l'aide de Dominique Touzery. On peut en parler, ex-conseillère pédagogique artistique.
Oui.
L'émission de cette deuxième décennie, en hommage à la deuxième décennie de Radio Cartable, tire à sa fin. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure cette émission, Yolande?
Oui, tu sais, Paul, quand on se retourne sur son passé, comme nous, hein, toi aussi un petit peu, même quand c'est un passé bien spécifique comme les 40 ans de Radio Cartable, on pense à ceux qui nous ont accompagnés et qu'on aurait aimé avoir encore près de soi. Encore et toujours une pensée à Madame Lotroïc, bien sûr, hein, mais à travers elle aussi, un merci aux quelques IEN qui ont repris le flambeau en défendant, en travaillant pour que vivre à Le Cartable. Alors Madame Fortier, 89-93, Monsieur Charazi, 93-99, Madame Le Goas, 99-2006, Monsieur Le Guilchet qui a dû reprendre le bâton de pèlerin pour nous sauver le poste, entre guillemets le poste, 2006-2011, et même aussi Madame Dudon, la dernière, 2012-2017. Bon, depuis je ne suis plus les choses, donc il y a peut-être aussi peut-être d'autres IEN qui ont pris le relais, affaire à suivre.
Alors à bientôt.
Corsaire sans territoire, a pris d'assaut Monceau, m'appelle ma balançoire, pris ma balançoire en pleine poire. On a traversé toutes les guerres, massacré les rois d'Angleterre et fait prisonnier mon petit frère. Mais à Colin Maillard, d'un coup de sabre laser, j'ai désintégré le gardien du square. Un jour de pluie très romantique, sur le toit du kiosque à musique, je suis tombé très très amoureux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais assis dans le ciel, suspendu à deux ficelles sur l'arc-en-ciel.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique la complicité de Flo Descailloux, qui nous prépare des cocktails musicaux diverses et variés. On sera à peu près la tournure des choses, et ces pages musicales en cours d'émission. Et nous avons le bonheur de recevoir Tania de Montaigne pour un roman Sensibilité, qui est paru aux éditions Grasset. Un roman que j'ai lu avec grand plaisir, et qui vous parle, que voulez-vous, de l'époque du « en même temps ». En même temps, on dit une chose et puis on en dit une autre. Et puis on fait du rétro-pédalage. On ne sait plus trop ce qu'on dit, on ne sait plus trop où on en est. Bref, est-ce qu'on ne fait pas de la littérature avec des bonnes intentions, Tania de Montaigne? Et c'est vrai qu'en plus, l'enfer est pavé de mauvaises intentions. Les mots changent-ils le monde? Cachez-moi ce mot que je ne saurais entendre ni voir. Bref, votre livre, Tania de Montaigne, parle de la l'insensibilisation de la langue, du langage. Est-ce que c'était justement... on en parlait un peu hors antenne, Tania de Montaigne, le bon moment. J'ai l'impression que votre livre, il tombe à point nommé. Sensibilité au pluriel, du féminin pluriel.
Après, les livres, c'est toujours... c'est le bon moment pour la personne qui les écrit, déjà. Ouais. Après, est-ce que c'est le bon moment pour les gens qui vont le lire? Ça, c'est la vie qui le dira. Hein. Parfois, c'est... je crois que si on commence à vouloir être un peu Nostradamus de la, de la sortie littéraire, en général, on se plante, quoi. Donc, non, c'était le bon moment pour moi parce que, voilà, il y avait plein de choses que j'avais pu croiser de part et d'autre et je me disais que j'aimerais bien en faire quelque chose. Et puis, voilà, là, j'ai rassemblé tout ça et puis surtout, il fallait trouver comment j'allais le dire. Donc ça m'a pris du temps, quoi.
Alors on sent qu'il y a une longue réflexion derrière. Moi je l'ai pris comme une fable contemporaine. Vous avez votre expérience du théâtre qui est là, qu'on sent vraiment. Alors j'ai pensé moi à trois livres en vous lisant. C'est bien. Alors bien sûr Salman Rushdie avec l'agression dont il a été victime. J'ai pensé à Nathalie Sarraute, Les Fruits d'Or.
Oh.
Oui, parce que le planétarium, les fruits d'or, finalement, pas beaucoup d'écrivains s'interrogent sur l'après-vie d'un livre. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté fruit d'or, avec l'oralité que vous avez, et puis un troisième livre de Boris Vian, avec l'affaire Vernon de Sullivan, et quand il y a eu un crime, enfin il a eu tout un procès,
oui,
vous savez,
exact, ouais.
J'irai cracher sur vos tombes.
Ouais, exact. On l'a accusé d'avoir incité au meurtre.
Alors, je voudrais connaître un peu quel était, si vous avez eu un modèle, parce qu'il y a une temporalité dans votre livre, il y a un choix d'un rythme très très précis. Est-ce que vous tout de suite vous aviez l'idée de ça ou quelque chose de court, de comme un conte des temps modernes quoi. Est-ce que vous avez cette idée là?
Ben en fait c'était vraiment un travail déjà de dire d'accord, moi ce dont j'ai envie de parler c'est en partant de ce que j'ai pu expérimenter. Mmh. Et qui était pour moi inattendu, c'est-à-dire à chaque fois c'était un étonnement de voir des gens qui me proposaient de modifier mon travail pour le faire correspondre à quelque chose qu'ils imaginaient de la sensibilité. Alors là en l'occurrence c'était les Noirs, hein, donc voilà. Ça part d'un livre que j'ai écrit qui est sorti en 2015 qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, qui est une biographie d'une jeune fille qui vivait dans l'Alabama des années 50 et qui a fait la même chose que Rosa Parks, mais 9 mois avant. Mmh. Et c'est grâce à cette jeune fille que, du point de vue légal, il n'y a plus de ségrégation dans les transports, mais personne ne la connaît. Donc, l'idée, c'était d'essayer de raconter cette trajectoire. Et il se trouve que ce livre noir, il appartient à une collection qui s'appelle Nos héroïnes, où le principe c'est de demander à une auteure au sens large, donc il y a celle qui a ouvert la collection par exemple c'est Michel Perrault, une historienne, et moi j'étais la troisième de la collection et la première romancière, et l'idée donc c'est que l'auteur du livre déjà doit trouver son héroïne. Et puis que cette biographie, au lieu d'être une biographie classique à distance où on raconte la vie de quelqu'un, bah là on est obligé d'être dans le livre d'une façon ou d'une autre. Donc à chacune de trouver la façon dont elle va y être. Alors Michel Perrault, c'est génial parce que elle raconte ce que c'est qu'être historienne.